Joël Sfar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce livre. J'ai du mal à dire bande dessinée, j'ai tendance à dire ouvrage, un essai, parce qu'il y a beaucoup de textes évidemment, il y a, vous connaissant, beaucoup d'images. Mais est-ce qu'on est encore dans la bande dessinée ?
Bah, on est dans ce que font très bien les éditions des Arènes, c'est-à-dire des sciences humaines en bande dessinée. C'est fait pour servir aux journalistes et aux historiens, et c'est fait pour parler des 4 mois qui ont suivi le 7 octobre dans les têtes juives, en France comme au Proche-Orient.
Vous parlez d'historiens, de sciences humaines, d'explications, de pédagogie. On vient de l'entendre, hein, Guillaume Tabar, avec cet incident de Saint-Étienne entre Glucksmann et puis des militants d'ultra-gauche, évoque la polarisation des débats, l'absence de la nuance, l'évacuation de toute culture historique, de toute nuance, au profit des camps extrêmes. C'est exactement ce que vous combattez et ce qui vous fait mal et qu'on ressent très tristement dans ce livre.
Oui, il y a un écroulement de beaucoup de cadres de dialogue qui nous permettaient de survivre en société. Je suis arrivé à Paris dans les années 90. Je me considérais comme un militant pour la Palestine, c'est-à-dire que je participais à des rencontres entre des Palestiniens, des Israéliens, des étudiants français. Et on s'enrichissait les uns les autres, on mélangeait nos narratifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des slogans. Et si j'étais provocant, je dirais que ça occulte aussi les voix palestiniennes. Parce que certaines formes de militantisme font croire que la voix de la Palestine, c'est la voix du Hamas. Et heureusement, ce n'est pas seulement le cas. Il faut rappeler que le Hamas est arrivé au pouvoir par des élections qu'il a gagnées faiblement, qu'ils ont tué 150 dirigeants du Fatah ensuite, et que depuis, ils tiennent en otage aussi bien le peuple palestinien que le voisin israélien. Donc il y a un dialogue à recréer, et ce n'est pas parce qu'on est heurté par ce qui se passe au Proche-Orient qu'il faut éteindre son cerveau.
Vous serez ce soir à Sciences Po, et je l'ai dit, vous serez aussi cet après-midi à la Sorbonne pour des débats, des dialogues sur la paix. Que vous inspire cette politisation des campus à Paris, mais surtout aux États-Unis, à Columbia, à UCLA, où il y a encore eu des affrontements la nuit dernière?
Moi, je suis pas compétent sur les États-Unis. En France, ce qui me chagrine, c'est qu'on avait une voix qui portait au Proche-Orient, on avait une voix qui était écoutée aussi bien par le monde arabe que par Israël. Ce n'est plus le cas. Donc la principale question, c'est pourquoi l'université française ne produit plus de textes marquants sur le Proche-Orient? Pourquoi les voix françaises ne sont plus écoutées au Proche-Orient? J'ai une petite réponse. Peut-être qu'on ne parle plus du Proche-Orient. Peut-être qu'aujourd'hui, les slogans qu'on entend avec la meilleure volonté du monde sont complètement coupés de la réalité palestinienne et de la réalité israélienne. Il y a tout de même un consensus simple. J'ai l'impression que la plupart des gens sont hostiles au massacre, n'ont aucune passion ni pour le Hamas ni pour Netanyahou, et tout le monde rêve que le sang arrête de couler. Sur ce petit consensus, on devrait pouvoir discuter plutôt que de brailler, parce que de toute façon, au Proche-Orient, personne ne nous entend.
Vous avez une explication sur l'expression immédiate, plus importante, occultant toutes les autres, des extrêmes. Le ventre mou n'a jamais aussi bien mérité son nom.
Ça, j'ai pas les compétences, mais il me semble que ça dit rien sur le Proche-Orient. Ça dit beaucoup sur les fractures françaises. Tout mon livre, c'est un petit peu l'inverse. J'essaie de faire parler des individus. J'ai le temps, donc ce sont de longs entretiens. Donc on les entend dire leurs doutes, on les entend dans leurs incohérences. Moi, je suis terrifié par la cohérence, les gens qui pensent, qui ont des certitudes. Dès qu'on est au Proche-Orient, dès qu'on parle à des juifs, des musulmans, des chrétiens, il n'y a aucune certitude, il y a juste l'envie de survivre, la sécurité de leur famille, le fait de ne pas savoir où ils seront dans un mois. Mais les certitudes, j'en entends que sur Internet, quoi.
Joël Sfar, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des juifs, 430 pages, 450 pages, où vous racontez une enquête qui s'est menée évidemment à Paris, dans votre environnement immédiat, puis ensuite en Israël, où vous êtes allé. Racontez-nous la genèse de ce carnet de bord, parce que vous faites des journaux intimes, vous tenez un carnet dessiné, en plus des BD qu'on connaît, notamment du Chat du Rabbin, le making of, comme on dit en anglais.
Alors là, c'est différent, c'est pas fait au jour le jour, c'est beaucoup retravaillé, beaucoup réécrit, il y a eu des journalistes et des historiens qui m'ont aidé, et c'est fait pour être lu comme un roman. La moitié du livre est en France, l'autre en Israël, et j'ai essayé de faire parler des juifs, il se fait que j'ai fait parler aussi pas mal de musulmans, et ça permet de donner un tableau, comme un portraitiste ferait, de ces 4 mois un peu étranges après le 7 octobre, où beaucoup de mythes ont été bousculés, la sécurité des juifs en France, la sécurité qu'il peut y avoir en Israël, et est-ce que le statu quo en Israël avec le Hezbollah d'un côté, le Hamas de l'autre est tenable? Tous ces mythes ont été remis en question, et je crois qu'on vit un moment historique. Peut-être que c'est l'entrée dans le nouveau siècle, et peut-être que c'est pas une erreur si les étudiants considèrent que le Proche-Orient Proche-Orient, c'est essentiel aujourd'hui.
Plus on vous lit dans cette bande dessinée, plus on s'aperçoit ce qu'on soupçonnait déjà, mais plus on parle à hauteur d'homme, plus on se détache des écrans, des tweets, de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information et des propos qui sont tenus par les uns et les autres dans les écrans. Plus les choses deviennent... moins elles sont violentes, en vérité. Plus on a affaire aux gens directement, plus on s'aperçoit qu'on peut parler vraiment.
Oui, je me méfie beaucoup des généralités. Et dans les deux camps en France, j'entends des gens qui, avec les meilleures intentions du monde, parlent à la place des Israéliens et à la place des Palestiniens et qui ne relayent pas la réalité de ce que j'entends là-bas. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est pire. Je dis juste qu'on se crée un Proche-Orient imaginaire et que ça fait du bien à personne.
Proche-Orient imaginaire, ça pourrait être le titre d'une prochaine BD, il faut le noter. Justement, le Proche-Orient réel, celui que vous avez découvert là-bas en allant en Israël, quelle surprise par rapport à ce qu'on sait de ce conflit vous a-t-il livré ?
Tout est déchirant, tout est encore plus compliqué que ce qu'on voit ici. Une des choses qui est ressortie, c'est le déchirement des Palestiniens d'Israël ou des Arabes israéliens qui, pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de musulmans parmi les victimes du 7 octobre et parmi les otages, pour la première fois se déclarent avant tout israéliens, ce qui est parfaitement nouveau, et qui, dans le même mouvement, réclament davantage de droits dans la société israélienne. Ça m'a beaucoup intéressé. Le narratif également des juifs orientaux, qui composent 75% des juifs d'Israël, qui peinent encore à dire leur histoire, qui ont des complexes alors qu'ils représentent l'immense majorité des Israéliens. Et voilà, tout ça. Le fait que chacun est tellement ancré dans son identité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit idéologique là-bas, que parfois, les gens en oublient même la guerre qui est à côté, puisqu'ils sont perdus dans une guerre intérieure et essayent de se définir en tant qu'Israéliens. Et je dois dire qu'il se passe la même chose à Gaza ou en Cisjordanie, où la société palestinienne, malgré la guerre, malgré les bombes, tente de se réinventer et de réaffirmer qu'elle ne se limite pas au Hamas. Et c'est là que les manifestants n'aident pas ici, c'est que sans le faire exprès, ils limitent la société palestinienne au Hamas, et si c'est ça, alors on peut tout abandonner.
Pourquoi vous avez décidé d'aller discuter à la Sorbonne, à Sciences Po, dans des conditions qu'on ignore pour l'instant? Ça se trouve, ça va être à nouveau, entre guillemets, la bordélisation, pour reprendre l'expression employée par Guillaume Tabar.
Bon, tout d'abord parce que Sciences Po m'avait invité bien avant les manifestations, et personne ne m'a désinvité. Et ensuite, je crois au dialogue, je crois à la bonne foi de l'immense majorité des étudiants. Je crois aussi qu'à force de ne pas parler au camp d'en face, on se retrouve tous à dire des bêtises. Et je ne crois pas au camp d'en face, à vrai dire. Je crois que depuis la France, tout le monde veut à peu près la même chose, c'est-à-dire l'arrêt des massacres.
Johann Sfar est l'invité de la matinale. Il publie « Nous vivrons » aux éditions des Arènes, ce qui m'a touché en vous lisant. Et je me rappelle à l'instant de la chronique de Marc Bourreau à 8h10 qui portait sur les centenaires. Il y a beaucoup de personnages âgés. Il y a les grands-parents, il y a les aïeuls, il y a une tante qui pense qu'elle va mourir tous les jours parce qu'elle perd la vue. Les anciens, évidemment, sont sur votre chemin, puisque c'est un chemin où vous questionnez votre identité.
Oui, Israël-Palestine, c'est pas un conflit infini. Il a commencé sur les décombres de l'Empire ottoman, mais c'est assez vieux pour que mes grands-parents m'en aient beaucoup parlé. Donc je l'ai fait parler, pas par romantisme, mais parce que je me souviens exactement de ce qu'il disait. Mon père, qui était un proche de Ferhat Abbas, qui était pour l'indépendance des nations arabes et qui était en même temps très sioniste, ce qui paraît incompréhensible aujourd'hui, à l'époque c'était tout à fait normal, et mon grand-père d'Europe de l'Est, qui lui pensait qu'il n'y avait pas de terre promise pour les Juifs, même pas Israël. Et je fais parler ces deux pessimistes, dont je me souviens très bien, et ça alimente ma vision. Ça me montre aussi à quel point la vision sur le Proche-Orient a changé depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Selon moi, pas en bien, parce qu'on s'en détache de plus en plus symboliquement.
Il y a de l'humour aussi. Vous parliez d'un de vos grands-pères qui expliquait que l'antisémitisme est partout, sauf dans les chambres d'hôtel où il va coucher avec ses très nombreuses maîtresses. Ça, c'est de l'humour juif.
Mon grand-père était un juif d'Europe de l'Est. Il m'a élevé à Nice. Et il fréquentait beaucoup de Polonais, d'Iraniens, de Libanais. C'était très cosmopolite. On lisait L'Orient le Jour. Et mon grand-père disait que l'antisémitisme s'arrêtait à l'entrée des chambres d'hôtel. Il était très actif sur ce terrain-là. Et je crois que c'est ce qui lui donnait le sourire.
Qu'avez-vous appris depuis le 7 octobre sur vous-même, sur vos peurs, sur vos douleurs? Il y a un nouveau Johann Sfar depuis le 7 octobre, comme vous décrivez des Juifs plus inquiets qu'autrefois depuis le 7 octobre.
Non, moi, je n'ai pas changé depuis 30 ans. Ce qui a changé, c'est qu'au lendemain du 7 octobre, avant même la riposte israélienne, il y a eu 1000% d'augmentation d'agressions anti-juives en France. Ça veut dire que moi, toutes les minutes, je reçois des insultes anti-juives par Internet. Tous les juifs que je connais ont subi des agressions. On représente 0,6% de la population française. Et j'entends des gens me dire « Oh là là, les juifs se sont communautarisés depuis le 7 octobre ». Mais pas du tout. C'est que l'environnement a changé brutalement. Le sol s'est écroulé sous nos pieds. Et on essaye de tenir dans l'idée qu'on est français avant tout, qu'on fait partie de ce pays, qu'on a une voix qui est autant valable que les autres. On peut se tromper, mais ça ne justifie pas de nous essentialiser, de nous assimiler à l'extrême droite israélienne qui ne nous représente heureusement pas. On vit un cauchemar. Et à chaque fois que je le dis, on me dit « tu fais du chantage à l'antisémitisme, tu pleurniches, tu te mets en concurrence avec les autres identités ». Ce n'est pas vrai.
Qui vous dit ça ?
Tout le monde. Tout le monde. Et que
tout le monde, c'est-à-dire tous les antisémites ou tout
Internet.
Le monde ?
Non, mais je vois des copains qui me disent « mais tu sais, fais attention. Attention, vous allez faire élire le Front National, comme si c'était notre faute. Je ne crois pas qu'il y ait plus de juifs que d'autres qui votent pour l'extrême droite, en tout cas ce n'est pas mon cas. Mais il y a une manière de ne pas... Par exemple, on me dit « oui, c'est difficile pour toutes les communautés », ça c'est tout à fait vrai. Mais la violence, c'est uniquement contre les juifs. 1000% d'augmentation d'agression, ça c'est uniquement contre les juifs.
Il y a une notion à laquelle vous tordez le cou, parce qu'elle déclenche une partie de l'antisémitisme, c'est ce qu'on appelle la double allégeance. Faites œuvre de pédagogie et expliquez pourquoi ça ne mérite pas le procès fait aux juifs d'être à la fois français et de soutenir Israël comme on soutiendrait une équipe de football.
Oui, parce que tout le monde s'imagine des agendas secrets. Les gens font de la juifologie, c'est-à-dire ils m'expliquent ce que c'est que les juifs, comment ça marche, etc. La réalité, elle est beaucoup plus simple. Plus d'un juif sur deux sur cette planète habite en Israël. Donc, on a tous de la famille, des cousins, des proches qui sont israéliens. Moi, toute ma famille paternelle est israélienne. Ça me rend encore plus français. Je suis très français. Cependant, j'ai peur pour eux. C'est tout. C'est pas un engagement idéologique, complexe, secret. C'est tout simplement qu'on a de la famille là-bas et que jouer sur la disparition de l'État d'Israël, c'est jouer sur la disparition de la moitié des juifs du monde. Et venir raconter avec une naïveté feinte à la télé ou sur les radios qu'on va créer un grand État pour tout le monde et que tout le monde va vivre en paix là-bas, les Palestiniens et les Israéliens. Enfin, on ne voit pas les 51 États musulmans autour d'Israël qui ne sont pas capables de laisser vivre une seule de leurs minorités, ni les Kurdes, ni les Yézidis, ni les chrétiens, ni les Juifs. Donc, venir depuis la France jouer avec la disparition d'un État de 10 millions de personnes, c'est aussi grave que nier le massacre que subissent les Palestiniens en ce moment. Il y a aujourd'hui une angoisse légitime de disparition des Palestiniens d'un côté, des Israéliens de l'autre, et c'est ce qui rend ce conflit particulièrement déchirant.
Et il est vrai qu'autrefois, les Juifs pouvaient se dire « je vais aller en Israël où je serai plus en sécurité ». On voit bien en vous disant que maintenant, l'Aliya n'est plus le symbole de la sécurité.
Non, mais elle existe tout de même, parce que beaucoup de Juifs de France se sentent inquiets, d'abord physiquement et ensuite symboliquement. Il y en a beaucoup qui sont sur le départ. Il y a eu des mouvements de population bizarres depuis le 7 octobre. Beaucoup de Juifs du monde entier qui sont partis vivre en Israël. Beaucoup d'Israéliens qui sont partis vivre ailleurs. Les sociologues n'ont pas encore étudié en profondeur ça, mais il y a des mouvements contre-intuitifs qui se produisent depuis le 7 octobre.
Rassurez-moi, il y a de la sympathie autour de Johann Sfar et de son chat ?
Les gens sont adorables. L'immense majorité des Français ne veulent aucun massacre, veulent la paix pour tout le monde. Je reçois que des témoignages extraordinaires. Simplement, comme disait Marjane Satrapi, il suffit d'un taré pour tout pourrir la vie.
Ce sera le mot de la fin. Il suffit d'un taré pour pourrir la vie. Citation de Marjane Satrapi, reprise par Johann Sfar. Nous vivrons. Écrit et bien sûr illustré par Johann Sfar. Merci Johann Sfar, à bientôt. Toujours le bienvenu sur cette antenne. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Augustin Lefebvre et notre esprit libre du jeudi. Franz Olivier.